Alors, si vous voulez vous lever, on va lire les huit premiers versets du chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix, qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-les comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine et je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. On va vous asseoir. Alors, simplement appeler aujourd'hui la chute de Babylone, Babylone la Grande, mais c'est vraiment l'identification, c'est Babylone la Grande, la religieuse et l'apostate. Ça crée, j'ai divisé le texte en trois parties. La chute est déclarée, versets 1 à 3. La chute est délimitée, versets 4 à 7. Et la chute est déterminée, versets 8. On a vu dans le chapitre 17, dans le verset 1, ça disait, « Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Donc, si on regarde vraiment le chapitre 17, il y a le verset 1 qui nous dit qu'il y a un châtiment, mais il ne nous décrit pas le châtiment. Et quand on regarde les commentaires du chapitre 18, il y a comme deux grands courants, deux grandes écoles. Il y a des personnes qui disent que quand on arrive au chapitre 18, on ne parle plus de la religieuse, de Babylone la Grande, la religieuse et apostate. Ils disent qu'on parle plus du côté politique. Mais le texte, j'ai lu les arguments des deux bords et je suis convaincu que les versets 1 à 8, on parle encore de Babylone la Grande, religieuse et apostate. Autrement dit, on parle de la prostituée qui était assise sur la bête. Très intéressant de savoir ça, parce que quand vous lisez les commentaires, des fois, ils ont l'air à se contredire, mais quand vous lisez les arguments, vous raisonnez, puis que vous regardez les arguments, parce qu'il y a des arguments qui sont basés sur ce qui est dit dans le verset, ce qui est dit dans le chapitre 17, et ce qui est dit aussi dans le chapitre 18. Quand on regarde ça, on arrive à la conclusion que c'est, moi j'ai la conviction qu'on parle encore de Babylone la Grande, la religieuse et apostate qui est assise sur la bête. Donc le religieux qui est assis sur le politique. Donc ce châtiment n'avait été décrit que dans le seul verset du verset 1 du chapitre 17. Les détails ne nous avaient pas été donnés dans le chapitre 17. Les détails nous sont donnés dans le chapitre 18. C'est ça qu'on voit là. L'ostination, c'est qu'il y en a qui disent, on ne parle plus de la religieuse, on parle d'autres choses, on parle de la politique. Si tu lis le texte à plomb, tu regardes ce qui a été dit dans le chapitre 17 et tu regardes ce qui est dit dans le chapitre 18, ne pas pouvoir faire autrement que d'arriver à la conclusion qu'on parle encore de... C'est important. Alors, le passage qu'on étudie aujourd'hui comporte quelques difficultés. Tous les passages dans l'Apocalypse en comprennent, mais celui-là comprenait des difficultés. Alors, si on veut interpréter comme du monde, il faut vraiment examiner et résoudre les difficultés. Alors, on va regarder c'est quoi les difficultés. On vient de les nommer un peu, on va les revoir encore. Alors, la question à se poser, que la plupart des commentateurs, si tu vas, tu peux te placer d'un commentateur à l'autre, la question qu'ils vont se poser, c'est Babylone la Grande qu'on parle ici, est-ce que c'est celle de nature religieuse? Autrement dit, la prostituée qui est assise sur les grands eaux mentionnés dans le chapitre 17, ou on parle de Babylone la Grande, la bête, la politique. C'est important de faire la distinction entre les deux. Alors, plusieurs auteurs modernes défendent le point de vue que Babylone la Grande du chapitre 18 est celle de nature politique et économique. Quant à moi, après avoir examiné les arguments des deux côtés, je suis convaincu qu'on parle encore de Babylone. Tout ça, le titre que j'ai donné, la chute de Babylone la Grande, religieuse et politique. C'est celle-là que, dans le chapitre 18, le Seigneur nous montre qu'il va la juger. Pourquoi que je me base là-dessus? C'est parce que si vous regardez les versets 4 à 6 du chapitre 17 qu'on avait vu, ça dit « La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom. » Très important ici, là. Pour faire le lien de ce que je vous disais tantôt, là, pour juger, on voit ici. Et sur son front, le front de qui? Le front de la prostituée, était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Il faut que ce soit la religieuse qui est Ève du sang des saints. C'est sûr que, à l'époque, quand vous regardez l'histoire de l'Église, ça fonctionne toujours de la même façon. L'Église prend des décisions, identifie ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, et ils font toujours faire, autrement dit, la job de bras par l'État. Le bras, ce qu'il appelait dans l'époque, là, quand vous le lisez dans des livres, le bras séculier. Autrement dit, nous, on décide c'est qui nos ennemis, mais c'est l'État qui va faire la job de bras. Mettre en prison, tuer, pendre, battre, etc. Là. Alors, elle est Ève du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Alors, la Rome papale. Et les églises dites chrétiennes qu'elle a ramenées sous son influence et autorité correspondent à cette description par l'abandon des doctrines fondamentales du christianisme authentique. De plus, l'écuménisme très large de notre époque, donc l'unité de toutes les religions du monde, comme ça a commencé, l'écuménisme a commencé vers les années, début des années 1900 à peu près. Et la première idée, au départ, c'était de ramener les frères séparés, qu'ils appelaient. Qui ont voulu prendre toutes les dénominations chrétiennes, peu importe la dénomination, et essayer de les ramener sous leurs influences. Il y en a qui appellent ça sous la jupe de Rome. Ils voulaient les ramener sous la jupe de Rome. Ils ont réussi. Ça a pris 100 ans. Maintenant, en 1983, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Le pape Jean-Paul II a fait une réunion à Assise, en Italie. Et là, il a fait une réunion de toutes les religions du monde. Il était toute là, toute la gang. Puis là, c'est comme s'il était en train de vouloir unifier toutes les religions du monde. Mais là, ce n'est plus les religions du monde qui portent le nom de Christ, là. Quand on parle de l'islam, quand on parle du bouddhisme, quand on parle de toutes les religions du monde, il y en avait des centaines. Alors, l'idée de la papauté moderne en les ramenant et en voulant créer une religion mondiale, c'est clair comme l'eau de roche. Là. Puis encore récemment, ils ont passé à une autre étape. Ils appellent ça le village global. Et ça s'en vient à très grand pas. C'est important de réaliser cela, parce que si on... À ce moment-là, quand il dit Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre, ça veut dire que l'Église catholique, Dieu dit qu'elle est la mère des abominations de la terre. Alors, c'est d'où est sorti les protestants? De l'Église catholique. Ils ont ramené. Là, normalement, s'ils les avaient ramenés, ils auraient dû s'arrêter là. Parce que c'est la bande de personnes qui se disaient croyants, mais qui avaient quelque chose en commun, Jésus. Mais là, ça va beaucoup plus large que Jésus. Là. C'est Bouddha, l'islam, toute la gang. Très important de saisir ça. Si on ne saisit pas ça, on ne comprend pas le sens du texte. Alors, quand on parle d'apostat, il faut vraiment arriver à saisir qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une église est apostate. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé chercher dans un dictionnaire, il y a des dictionnaires bibliques en ligne. Tu fais juste marquer dictionnaire biblique en ligne, puis tu vas trouver. Il y a des dictionnaires, là, toutes les lettres de l'alphabet sont là, tu cliques dessus, tu as des grands articles sur toutes les doctrines possibles et imaginables. Ça a été fait. Aujourd'hui, c'est tout gratuit, ils sont tous Internet. Fait que j'ai trouvé comment, dans ces dictionnaires-là, on décrit qu'est-ce que c'est l'apostasie. Alors, je vous lis ce qu'on trouve dans le dictionnaire biblique Westfield, qu'on trouve sur Internet. Ça dit, apostasie, définition, abandon public d'une foi pour une autre, avec signification péjorative. Péjorative, ça veut dire quelque chose qui n'a pas un sens positif. Mm-hmm. Quand tu dis un sens péjoratif, signification péjorative. Tu abandonnes une foi pour une autre, mais avec une signification péjorative. Antiochus Épiphane veut l'obtenir des Juifs en leur faisant offrir des sacrifices aux idoles. C'est il a voulu que les Juifs de religion offrent des sacrifices aux idoles. C'est ça l'apostasie. Si les Juifs acceptaient ça, c'était de l'apostasie. L'apôtre Paul en est accusé par les Juifs. Les Juifs ont accusé Paul d'être un apostat, mais un apostat de la religion juive. Alors, dans Actes 21, le terme apostasia est rendu par renoncer à Moïse. Il l'annonçait, il l'accusait de renoncer à Moïse. Puis c'est vraiment apostasier de Moïse. L'apostasie des faux chrétiens ou des juifs précédera le triomphe de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. L'idée d'apostasie est encore exprimée par le verbe correspondant dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Et celui-là, je dirais que c'est peut-être le plus important pour parler de l'apostasie dans le Nouveau Testament. Quelques-uns, en parlant des personnes qui ont professé être croyants, là, quelques-uns se détourneront de la foi. L'apostasie, ça veut dire se détourner de la foi. Te professer croire en Jésus-Christ. Qui il est, son identité, et ce qu'il a fait, son œuvre, tu te détournes de ça. Tu t'en vas dans une religion où on dit n'importe quoi. Quelques-uns se détourneront de la foi. Puis dans Hébreux 3:12, on a l'idée suivante, que quelqu'un ne se sépare du Dieu vivant. J'ai revenu avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi l'avènement? C'est le retour. Pour ce qui concerne, il est en train d'expliquer aux Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Ça dépend des versions, il y a des versions qui vont dire l'apostasie. La révolte et l'apostasie, c'est la même chose. C'est des gens qui ont professé croire en Jésus-Christ, mais qui éventuellement vont renoncer, vont s'éloigner, vont quitter. Il faut que la révolte soit auparavant, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, j'ai juste fait une recherche un peu rapide, je n'ai pas tout regardé toutes les versions, mais je l'ai marqué dans les notes. Les versions Darby, second 1910 et second 21, traduisent le mot du verset 3, qu'on dit comme révolte, là, comme apostasie. Apostasie. Donc, on va regarder le premier point, la chute qui est déclarée. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire et il cria avec force et avec grande voix. Il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Quand vous regardez ça comme faux, on est en train de parler de la grande religion qui s'en va vers la religion mondiale. Puis regardez ce que le texte nous dit. Elle est tombée. Elle est devenue la demeure des démons. On ne voit pas que le dos de la cuillère, là, ici, là. On parle d'une église. Elle est devenue la demeure des démons. Le repère de tout esprit immonde et le repère de tout... Si vous avez les notes, je vous ai mis en annexe. On ne lira pas ça ce matin, mais je vous l'ai mis pour que vous saisissiez. Qu'est-ce qui m'a fait le mettre? C'est parce que si tu vas dans le verset 23 du chapitre 18, on parle de la raison pour laquelle Dieu a jugé Babylone la Grande. Puis là, dans la version que j'utilise, il parle de sorcellerie. Là, je dis, il me semble que dans les autres versions, ça ne dit pas sorcellerie. Je suis allé voir les autres versions. Et on va le voir tantôt. Il y a des versions qui disent magie, des versions qui disent sortilège, des versions qui disent
enchantement.
Alors, c'est très intéressant de voir comment ça se fait que des gens qui traduisent le même texte en arrivent à utiliser des mots différents comme ça. Sortilège, magie, enchantement. Il me semble que ça a des nuances. Mais s'ils ont utilisé ces mots-là, c'est parce que, à quelque part, dans le mot, ces choses-là sont présentes. Cette semaine, je regardais, si, quand on lit quelque chose comme ça, disons que ça dit sortilège, puis là, on va voir dans les autres versions, on trouve d'autres mots. Et il dit que c'est la raison pour laquelle il a jugé Babylone la Grande. Moi, je me suis dit, si quelqu'un avait le temps de le faire, là, de prendre tous ces mots-là, puis de regarder comment, dans l'histoire de l'Église, ces choses-là se sont manifestées. Parce qu'il dit qu'ils ont jugé pour ça. Mais comment, si on étudie l'histoire de l'Église, comment je vais voir les sortilèges, comment je vais voir la maladie, la magie, comment je vais voir tout ça? C'est très intéressant, parce que je me suis dit, quelqu'un qui prendrait le temps de faire ça, il comprendrait ce que le texte est en train de dire. Mais des fois, on n'a pas toujours le temps, ça prendrait un temps fou faire ça. Là. Mais ça serait intéressant quand même. Alors, ce qu'on voit dans le verset 1, C'est un décret divin, c'est une décision divine. Quand ça dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, la terre fut éclairée de sa gloire, là encore une fois, les auteurs disent, il y en a qui disent c'est Jésus. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas mentionné que c'est Jésus, mais c'est fort probablement un ange. Parce que quand on dit, toute la terre fut éclairée de sa gloire. C'est là qu'il y en a qui sautent aux conclusions à cause que l'ange éclaire la terre de la gloire divine. Ils sautent aux conclusions en disant il faut que ça soit Jésus-Christ. Pas nécessairement. Ça peut être un ange ou qui est en présence de Dieu. Regarde Moïse, quand il rencontrait Dieu, il sortait, les gens n'étaient même pas capables de le regarder tellement il rayonnait. Alors l'ange qui était en présence de Dieu, c'est Dieu qui lui a demandé de faire le travail, de venir annoncer aux hommes que Babylone la Grande est tombée. Alors, certains commentateurs voient dans l'ange qui descend du ciel ce qu'ils appellent une christophanie. Qu'est-ce que c'est une christophanie? C'est Christ qui apparaît sous une forme humaine visible. Alors, ils disent l'ange qu'on voit là-dedans, qu'on dit qu'il a crié, ils disent que c'est une christophanie. Donc, une apparition ou une manifestation sous forme visible par les sens du Seigneur Jésus-Christ. Et selon eux, c'est justifié par le grand pouvoir, parce que ça dit qu'il y avait un grand pouvoir, et aussi que la terre était éclairée de sa gloire. Il faut qu'un ange rayonne pas à peu près pour éclairer toute la terre de sa gloire. Alors, de là viennent les deux interprétations. Puis, je vous ai cherché un petit peu. Le commentateur J.K. Beale, il a écrit un commentaire qui est considéré comme le meilleur commentaire de l'Apocalypse. Si vous faites des recherches, J.K. Beale, je l'ai acheté. Et lui, voici ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit qu'il est possible que le message du verset 1 soit un ange ou une créature qui reflète la gloire divine. Vous savez, en anglais, il dit « It is still possible that the figure in 18:1 is a mere angel reflecting the divine glory. » Autrement dit, ça peut être une créature, mais il y en a beaucoup qui ont sauté aux conclusions à cause du dit « T'as de la lumière tellement grande que ça prend Jésus pour faire ça. » Il y en a qui ont sauté aux conclusions, dire que c'est Jésus. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, il ne fait aucun doute que le messager resplendissant soit de source divine et qu'il ait reçu de Dieu lui-même la mission d'annoncer le jugement sur Babylone la Grande. Le Seigneur avait confié au messager un grand pouvoir. Ça dit dans le texte, une grande puissance, et aussi une grande autorité pour authentifier le message et la certitude de son accomplissement. Tu sais, ça dit qu'il criait de nouveau. Il criait. L'ange criait. Ça dit, il criait d'une voix forte. Il criait avec force et avec grande voix. Alors, il voulait vraiment qu'on sache qu'elle est tombée. Elle est tombée. Tu le répètes deux fois. Souvent, dans les Écritures, la répétition, ça veut dire... C'est sûr qu'elle est tombée. C'est assez extraordinaire. Des fois, quand on lit ça, on n'y pense pas. Elle est tombée. Il parle d'un événement futur, d'un événement prophétique, puis il en parle au passé. C'est très intéressant pour montrer que quand Dieu a décidé, il a prophétisé quelque chose, tu es sûr que ça va arriver. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes Ésaïe et Jérémie avaient livrer des messages semblables de chute concernant l'ancienne ville de Babylone, la terrestre. Ça, c'est intéressant parce que Dieu se sert de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament concernant la ville de Babylone, l'ancienne, qui était vraiment une domination politique très grande à l'époque. Il se sert de choses qui ont été dites, qui ont été dites sur elle concernant sa chute, celle qui est la physique, là, celle, pour comparer avec celle de Babylone la Grande, la religieuse. Alors, on les lit dans Ésaïe 21, verset 9. « Et voici venir de la cavalerie des cavaliers deux à deux. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Voyez-vous l'image, là, elle est tombée. Jean connaissait bien les Écritures. Ça vient de l'Ancien Testament. Il prend une image qui concernait l'ancienne Babylone terrestre, la grosse domination politique, pour comparer que même à l'époque, cette Babylone-là, elle avait l'air invincible, qu'elle ne sera jamais battue. Seigneur, il dit, regarde, dans le passé, on s'en est occupé. La Babylone qui est très, très, très puissante aussi, on s'en débarrasse. Jérémie, chapitre 50, versets 1 et 2, et le chapitre 51, versets 7 et 8. On commence par 1 et 2. La parole que l'Éternel prononça contre Babylone, contre le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le chez les nations et publiez-le. Élevez l'étendard, publiez-le. Ne cachez pas, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Merodac est brisé, ses idoles sont confondues et ses faux dieux brisés. Et dans le verset 7 et 8, chapitre 51, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée. Elle s'est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Donc, le parallèle entre Babylone, l'ancienne ville puissante de l'Ancien Testament, et Babylone, la grande du Nouveau Testament, est voulue, et c'est vraiment saisissant. Quand tu regardes les deux, là, puis tu fais le parallèle, c'est vraiment saisissant. Et là, non seulement on dit que c'est un décret divin, puis ça va être annoncé avec une force, et que Dieu va démontrer que c'est sa volonté qu'elle soit détruite, il nous dit pourquoi, dans le verset 2. Alors, ce fameux ange-là qui éclairait toute la terre. Imaginez un ange qui éclaire toute la terre. Jean voit ça, là. Tu sais, on a un éclair, on lit ça comme ça, puis on s'arrête pas à penser à l'image que si tu verrais un ange qui est puissant au point qui éclaire toute la terre, qu'est-ce que ça ferait sur notre esprit? Hein? Et cet ange-là, il dit, il cria avec force. Imaginez-vous un ange dont on dit qu'il est puissant et qui a une grande autorité, qui crie avec force. Il voulait que ceux qui l'entendent soient vraiment bien informés, comme on dit. Et là, à deux reprises, il dit, « elle est tombée, Babylone la Grande, et elle est devenue la demeure des démons. » Hey, quelque part, c'est spécial, ça, là. Et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc, l'ange, ici, il manifeste une très grande assurance et une affirmation autoritaire qui est véhiculée non seulement par le volume, mais par le ton de la voix. Moi, j'étais dans l'armée. Quand, moi, vous dire une affaire, j'ai connu des gens... ce qu'on appelle dans l'armée, ils appellent ça des CSM ou des RSM. Les RSM, c'est celui qui commande un régiment. Moi, j'étais dans le 22, puis quand on faisait un régiment sur le Parade Square, il appelait un grand morceau d'asphalte, puis il rassemblait tout le 22e régiment. Le RSM, là, quand il donne un commandement, là, va dire une affaire, ça sort avec autorité. Hey, ces gars-là, ils ont des voix, là, des vrais tonnerres. Alors ici, on peut penser que l'ange parle avec vraiment beaucoup d'autorité. Il leur dit que la chute est certaine. Elle est criée à deux reprises. Donc, ce qui est intéressant à noter, qu'on l'a dit tantôt, sa réalisation, quoique prophétisée pour le futur, est verbalisée au passé. C'est fort quand on s'arrête à penser à ça. Dieu parle d'événements futurs, mais il en parle comme si c'était déjà réalisé. Ça donne une idée de la force du commandement. Et là, il est en train de nous parler de quelque chose qui caractérise cette fameuse Babylone, la grande religieuse et apostate. elle est triplement révélée. Une demeure de démons, un repère. On sait ce que c'est quand on dit le repère des Hells Angels, hein? C'est comme un endroit où ils se rassemblent. Un repère de tout esprit immonde et un repère de tout oiseau immonde et horrible. Alors, une institution mondiale et d'une influence extraordinaire par son prestige et sa richesse, qui est censée promouvoir la cause et la vérité du Seigneur Jésus-Christ, les Écritures disent qu'elle est rendue un repère de démons. Une Église qui est rendue un repère de démons. Ça va pas bien, là. Pas pour rien que le Seigneur veut enlever ça de la map, comme on dit. Alors, elle est supposée de promouvoir la cause et la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Elle est tellement dégénérée qu'elle ressemble plus à un repère de démons. Elle est devenue, mais trois fois est mentionnée avec des mots différents, cette idée-là qu'elle est remplie de démons. Tu sais, dans les Écritures, ils nous disent qu'à la fin des temps, il va y avoir des faux prophètes, puis ça dit qu'ils vont enseigner des doctrines de démons. Autrement dit, dans l'Église qui se dit chrétienne, il va y avoir à un moment donné des gens qui vont prêcher des doctrines, qui sont des doctrines qui ne sont plus de la Bible, mais qui sont des doctrines de démons. Les oreilles leur démangeant, ils voudront entendre des choses qui leur plaisent. Ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. Rappelons le sens du mot « immonde ». J'ai fait des recherches dans les dictionnaires. Quelque chose qui est immonde, c'est quelque chose qui est d'une saleté ou d'une laideur qui provoque le dégoût, qui est d'une immoralité et une débauche extrême, qui est une bassesse ignoble, infâme et révoltante. C'est ça qu'on est en train de parler, là. L'Église, qui est supposée promouvoir la cause de Christ, est rendue où on utilise le mot « immonde ». Puis le mot « immonde », quand on cherche dans le dictionnaire, c'est ça que ça veut dire. Saleté, laideur, immoralité, débauche, bassesse, ignoble, infâme. Quelque part, quelque chose ne marche plus, là. L'ange nous parle du diable qui anime le système. Donc, cette fameuse religion-là, qui est apostate, qui anime tout ça, qui est en arrière de tout ça, qui pousse tout ça, c'est le diable lui-même, doctrine de démon. Alors, ils sont maintenant rendus tellement vils et corrompus que le Seigneur décide de les juger. Il y a une phrase que j'ai vue dans un commentaire que j'ai trouvé intéressante. Il dit, « Nous regardons notre monde aujourd'hui et nous pensons qu'il ne peut pas être pire. » Ça vous est arrivé, ça, des fois, de regarder l'état du monde, ce qu'on entend parler des choses tellement graves qu'on se dit, « Oh, ben là, ça ne peut pas être pire que ça. Oui. » Non, ça va être pire que ça. Parce que ce verset nous décrit un monde qui est littéralement abandonné et livré au diable lui-même. Verset 3, et là, il nous dit, non seulement il veut la juger à cause de ses activités d'inspiration démoniaque, mais il veut aussi la juger à cause de sa prostitution et de sa convoitise. Deux choses. Prostitution, ça veut dire prendre des choses sacrées, puis négocier ça avec les marchands de la terre pour de l'argent. Puis la convoitise, c'est que la religion serait rendue un immense business, autrement dit. Une business... Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont écrit sur la fortune de l'Église catholique, Vatican, tout ça. Et aussi, si vous regardez n'importe quelle ville, allez à Sherbrooke, par exemple. Sherbrooke, je dirais que c'est une ville typique. Promenez-vous dans la ville de Sherbrooke, la quantité de terrains, de bâtisses qui appartiennent à l'Église catholique, dans des endroits stratégiques, ça vaut des fortunes. Non seulement c'est à Sherbrooke, dans toutes les villes du Québec, dans toute la grandeur du Canada et dans le monde entier. Quand on dit ils ont de l'argent, il y en a beaucoup qui soupçonnent aussi qu'avec la Banque du Vatican, on a lessivé de l'argent des criminels. J'ai pas de preuve de ça, mais je sais que je peux trouver des milliers de preuves comme de quoi ça a été dit dans le passé, que c'est ça qu'il faisait. Alors, c'est pas l'argent qui lui manque. Vraiment pas, c'est pas un problème. Alors, quand ça dit, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. On est rendu, on va faire encore un autre petit bout. On va aller dans les versets... OK. Excusez-moi. Donc, ça sera... Alors, toutes les nations se sont laissées séduire par l'appât du gain facile et par l'amour immodéré de l'argent. Alors, ils ont soutenu Babylone la Grande et ils ont contribué à la maintenir en place et à favoriser, par le fait même, tout le développement de toutes les formes d'idolâtrie, des fausses doctrines et de toutes les activités du malin. Et quand on regarde le verset 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10, ça identifie l'amour de l'argent comme étant la racine de tous les maux. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des grandes douleurs. Intéressant, parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire, mais à partir de la parole vivante. Parole vivante, c'est pas une version que je recommanderais à quelqu'un de lire, là, parce que c'est une traduction un petit peu, je dirais, très libre. C'est pas vraiment du mot à mot, on dit. Mais quand même, je trouvais que la traduction ici pour le passage qu'on étudie était intéressante. Alors, la parole vivante, 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10, voici comment ils traduisent ça, eux. « Car toutes les nations ont bu du vin de son dévergondage effréné. Tous les hommes se sont grisés de sa sensualité passionnée. Les souverains du monde se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre ont fait fortune en satisfaisant son amour excessif de luxe. » Ouais, quand même... façon d'exprimer les choses très différentes de nos versions traditionnelles, mais quand même, les idées, je pense, fondamentales sont là. Versets 4 à 7, quand on dit « la chute est délimitée », ça veut dire que Dieu va permettre que dans cette grande religion mondiale-là, il va y avoir, Dieu sait qu'à l'intérieur de ça, que ce soit par ignorance ou pour quelque autre raison, on ne sait pas pourquoi, mais il y a encore du peuple de Dieu là-dedans. Soit que c'est Dieu qui veut les sauver là, par grâce, ou soit que Dieu sait qu'il y a de son peuple là qui vit dans l'ignorance de ce que jusqu'à un certain point de ce que ces gens-là font. Et là, il nous donne un avertissement, juste pour dire qu'il ne jugera pas toute cette grande affaire-là sans regarder est-ce qu'il y a des miens là-dedans. C'est ça qu'il est en train de dire dans le verset 4 à 5. Alors, ici, je pense qu'on peut exprimer l'idée que le Seigneur est d'une précision chirurgicale dans l'expression de ses jugements. C'est pas at large, universel, il va faire attention pour pas enlever ceux qui lui appartiennent. Alors, ça dit, dans le verset 4 et 5, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Alors, ceux qui sont des véritables chrétiens, qui se rendent compte dans quel gamique ils sont embarqués, le Seigneur leur commande, il dit pas « ça vous tente, sortez du milieu d'elle ». Puis là, il leur dit pourquoi, « sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités ». L'exhortation est claire. Elle ne s'adresse pas ici aux incroyants, mais au peuple de l'Alliance divine. Il y en a actuellement, dans tout ce qui se produit actuellement, qui, là-dedans, Dieu les a soit éclairés, soit informés. Puis si la personne s'en rend compte par elle-même, par grâce de Dieu, bien, il faut qu'elle agisse. Parce que dites-vous une chose, des personnes qui sont là-dedans depuis 15, 20, 30 ans, 35 ans, c'est pas facile de sortir de là-dedans. T'as toute ta sécurité là-dedans, t'as toutes tes amis, t'sais. Mais le Seigneur, il dit, si tu veux pas participer à ses plaies, sors. Alors, quelque part, ça prend du courage. Alors, c'est un ordre. Le Seigneur, il dit, séparez-vous d'eux. C'est pas sans nous rappeler d'autres passages du Nouveau Testament qui nous parlent du même phénomène de la nécessité de se séparer. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le peuple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le peuple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur. Je vous recevrai et je vous recevrai, et je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc la mesure, quand vous regardez l'histoire de l'Ancien Testament, le Seigneur disait tout le temps avant de juger, il disait, la mesure n'est pas rendue à son comble. C'est la manière d'agir du Seigneur. Il attend que la mesure du péché soit rendue à son comble. Et quand la masse tombe, par exemple, c'est pas beau, là. Alors, la mesure du péché est rendue à son comble. Dieu, lui-même, va intervenir et envoyer un jugement d'une très grande sévérité et d'une extraordinaire efficacité. Le Seigneur n'oubliera absolument aucun de leurs péchés. Intéressant de regarder ça. Si c'est vrai, tout ce que, les mots qu'on a utilisés, puis le verset 23, dans l'autre, ce que je vous ai mis, sortilège, magie, le Seigneur n'a pas oublié un seul péché de tout ce qui s'est commis dans cette Église-là depuis peut-être des siècles. Ils vont être jugés pour chacun. Pour nous, c'est important de se rappeler, comme chrétiens, qu'on est béni d'avoir reçu la grâce divine et avoir reçu aussi le pardon divin. On va regarder trois passages, et on va terminer là-dessus, qui parlent de ça, comme on est béni d'avoir reçu le pardon divin. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ici, il est en train de dire que les péchés de cette Église-là, il va tous s'en souvenir. Nous, il nous dit qu'à cause de la grâce qu'on a reçue, il se souviendra d'aucun de nos péchés. Ni ceux qu'on a fait dans nos pensées, ni ceux qu'on a fait dans nos actions, ni ceux qu'on a fait dans nos omissions, ni ceux qu'on a fait dans nos fautes secrètes, ni fait aucun. Il se souviendra d'aucun péché. C'est comme si on n'avait pas commis. Mais eux sont tous enregistrés dans le grand livre et ils vont payer pour. Hébreux, chapitre 8, verset 12. « Parce que je serai apaisé à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il parle des croyants. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés ni de nos iniquités. Hébreux, chapitre 10, verset 15 à 17. « Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai après eux en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs entendements. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alors, il faut faire vraiment l'opposition très grande entre ce que nous, on reçoit par grâce, pas parce qu'on le mérite, mais eux, vu qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui se sont maintenus dans les ténèbres, Dieu dit, lui, il va se souvenir de tous leurs péchés et ils vont payer. Alors, on va arrêter là pour cette semaine, on finira le reste la semaine prochaine.